Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, au podcast, on a Oko Shio, qui est un business manager des artistes. Puis aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir Oko sur le podcast parce que j'ai rencontré Oko quand j'avais peut-être comme 13 ans, quand je travaillais à un festival. Puis Oko, il m'a toujours vraiment inspirée. Je trouve que c'est une personne qui est vraiment fonceuse. Il va jamais prendre non comme une réponse. Puis j'ai vraiment toujours admiré Oko. Fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir au podcast aujourd'hui. Puis il nous parle justement de c'est comment faire de l'argent dans l'industrie de la musique, comment justement rentrer dans ce milieu-là. C'est vraiment intéressant, je trouve qu'il y a tellement d'informations. Si t'es quelqu'un qui est intéressé par le showbiz, l'industrie de la musique et tout, tu penses que tu vas vraiment trouver réponse à toutes tes questions. Alors là-dessus, bonne écoute! Tu écoutes Génération Startup. Salut, bienvenue au podcast.
Bonjour, ravi d'être là.
Parfait. Alors moi, je suis trop contente de t'avoir ici aujourd'hui parce que ça fait fou longtemps que je te connais, mais j'ai jamais vraiment su ton parcours scolaire et tout. Est-ce que tu veux commencer à nous expliquer un peu
parcours scolaire? Donc, à la base, je suis un petit Tanzanien. Je suis né en Tanzanie. Après, mes parents sont diplomates. Ils ont commencé à voyager. Mon père était muté à Paris. J'ai commencé mon primaire en Tanzanie, puis transféré à Paris. Mes parents ont divorcé. Mon père voulait pas élever deux enfants, deux garçons tout seul, donc il nous a envoyé en pension en Angleterre. Je suis allé en pension en Angleterre et je suis revenu à Paris. J'ai fini mon bac, j'ai fait mon bac option internationale. Et après, je voulais aller aussi loin que possible de mes parents, donc je suis parti en Amérique du Nord. À la base, je voulais aller à USC faire cinéma et business. Moi, okay. Je voulais être réalisateur. Mon réalisateur de rêve, c'était John Singleton, avec tous les films qu'il a fait là. Et mon père, c'était à l'époque où il y avait des problèmes de gang en Californie, donc c'était pas une option. On avait un ami qui était à Montréal, qui allait à McGill. Il m'a dit que c'était pas mal. Mon père avait déjà travaillé au Canada, donc je suis venu à McGill. Okay. Donc je suis arrivé à McGill en, oula, ça fait longtemps, 96. J'ai gradué. J'ai eu la chance d'avoir un an de crédit. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont cru que j'étais intelligent.
Okay.
Et j'ai fait mon université en 3 ans. Et puis, j'ai commencé à travailler.
C'était quoi ton bac?
C'était économie et finance.
Okay.
Ouais. Joint honors, économie et finance. Ouais.
Okay.
Et en fait, c'était en venant du système français où on a 11 ou 12 cours, si je me rappelle bien. Et en arrivant en université où tu en as 5, je ne savais pas quoi faire avec mon temps. Fait que je faisais beaucoup de sport. Je ne sortais pas encore. J'étais encore sage, mais je trouvais ça très facile. Et c'est devenu difficile parce que je n'étais pas aussi discipliné que j'étais quand j'étais à l'école.
Okay.
Parce que je n'avais pas de pression. Mm-hmm. J'avais trop de temps. Et puis voilà.
Puis après que tu as fini ton école, comment tu es rentré sur le marché du travail?
Par pur hasard.
Okay.
Dans ma tête, j'allais faire une maîtrise en économie,
mm-hmm.
Qui était un an, parce que je voulais juste faire l'école, 4 ans, finir, et plus en parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que il faudrait peut-être que j'applique à un emploi, juste histoire de. J'ai appliqué à un seul emploi en management consulting, une compagnie qui s'appelle Corporate Affairs International,
okay.
Qui faisait du financement d'entreprises publiques et privées. Et je suis allé à une première entrevue, ça s'est bien passé, je suis arrivé en jogging. Deuxième entrevue, je me suis habillé, j'étais en costume parce que j'ai vu que c'était sérieux. Et à la troisième entrevue, ils m'ont confirmé. Et j'ai commencé à travailler en consultation.
Puis comment t'es rentré dans la musique?
Par hasard, encore.
Encore, ouais. OK.
La vie fait bien les choses. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et j'ai eu beaucoup de hasards qui m'ont mené à où je suis aujourd'hui. Et chance sur chance sur chance, donc je suis très reconnaissant. Mais en gros, j'étais consultant pendant, je crois que c'était 4 ans. Et la consultation, selon moi, surtout pour les entrepreneurs, s'il y a un endroit où on devrait bosser pour quelqu'un, c'est en consultation parce qu'on arrive à toucher à beaucoup de sujets, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries.
Mm-hmm.
Et c'était mon université. L'université, honnêtement, au début, je n'étais pas sérieux. À la fin, je faisais trop la fête. Donc, je n'ai pas vraiment appris grand-chose en termes de choses que je peux appliquer à la vie de tous les jours. Là où la consultation m'a appris, j'ai appris à travailler. Le système français t'apprend à travailler fort. L'université t'apprend à réfléchir. La consultation m'a appris à aller faire ma recherche dans les différentes industries et j'ai pu toucher à beaucoup de choses. Et vers la fin, j'étais le plus jeune de la boîte et on a eu une entreprise en musique qui avait besoin de financement. Il y avait un programme gouvernemental avec le ministère de la Culture où ils pouvaient aller chercher jusqu'à 4 millions et ils avaient besoin d'une firme de consultation. J'étais le plus jeune, j'étais le seul gars qui sortait, j'étais le seul gars qui écoutait de la musique. Ils m'ont dit, ah, toi le jeune, là, va voir ces gens-là, ils nous ont engagés, je crois que tu fais des pictures. Ça pourrait marcher. Okay. Je suis allé, tout le monde était jeune. La réceptionniste était incroyable. Et je suis resté et on a commencé à travailler avec eux. On a finalisé le dossier, on a livré. Je me suis super bien entendu avec les personnes avec qui je travaillais. L'entreprise, c'était Download & Download, qui était une assez grosse entreprise ici en concert et production et aussi label de musique. Et ils m'ont demandé de les aider. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous aider? Notre personne de finance est en train de partir, elle en a marre de faire, de faire son travail. Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire la consultation pour nous et nous aider? Et moi, je leur ai dit oui, parce que j'en avais un peu marre de faire la consultation, mais ne me payez pas. Parce que je vais appliquer à mon MBA, j'avais appliqué à HEC, donc j'avais été accepté. Et je vais faire mon MBA, c'était en décembre, je vais faire mon MBA en septembre, donc vous avez 6 mois de mon temps où je vais venir, vous me payez en concert et soirée, et ça me suffit. Et voilà, j'ai commencé comme ça en 2003 et je suis encore dans la musique aujourd'hui.
Puis t'as fait quoi là-bas concrètement?
À la base, j'étais le assistant au contrôleur. Et CFO, et les deux sont partis, je suis devenu le CFO. Je suis devenu le CFO pour toutes ces boîtes. Donc en fait, je m'occupais de toute la finance et tous les contrats de toutes les entreprises dans lesquelles il était impliqué. Qui veut dire que j'ai inventé au fur et à mesure, parce que je ne connaissais pas du tout l'industrie de la musique. La finance, il n'y avait pas de problème, mais l'industrie de la musique, il n'y avait pas de règles, il n'y a pas de structure vraiment. Donc je suis allé go with the flow et j'ai inventé au fur et à mesure. J'ai essayé de on a établi les systèmes. Un truc aussi con que des comptes de dépenses. Moi, j'avais des gens qui me donnaient des comptes de dépenses sur des napkins. De chez Paré, par exemple. $800 en alcool sur une napkin. Et là-dessus, je devais rembourser. On a changé tout ça. Structurer les types de dépenses quand on dépensait pour un artiste, de le marquer. Comme ça, on pouvait faire de la comptabilité par projet ou on pouvait voir les in and out pour les projets, pour avoir un retour sur investissement. Donc, juste essayer d'établir des vraies bases de finances. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Je ne suis jamais allé à mon MBA. Ah. Et j'ai continué à le faire. J'ai finalement fait mon MBA, mais en 2009, 10 ans après, à McGill. Et puis voilà. Ouais.
C'était quoi une de tes plus belles expériences à Download & Download?
Plus belle expérience déjà, c'était rencontrer... Il y avait deux personnes. Il y avait Mathieu Drouin, qui était le bras droit de Download, et Download. Donc, la première chose, c'est de rencontrer les deux. Et Download, c'est vraiment une personne extraordinaire. La plupart des gens qui l'ont côtoyé peuvent en témoigner. Là. C'est la plus jeune vieille personne que je connaisse. Il avait 60 ans quand je l'ai rencontré. Son esprit était plus vif que le mien. Il allait plus vite, j'arrivais jamais à suivre. C'était incroyable, il avait 15 choses dans la tête en même temps. Et il s'est devenu un mentor. Donc une des meilleures choses, et jusqu'à aujourd'hui, une des choses que je retiens le plus et que j'adore, c'est le fait que je puisse lui parler de tout et n'importe quoi. Et il m'a appris beaucoup de choses dans ma vie. Il a changé beaucoup de choses. Moi, j'étais un super nerveux, très agressif, fonceur, pas beaucoup de respect pour les gens et surtout les gens faibles. Et il m'a appris beaucoup de choses sur comment se calmer, comment se comporter, comment respecter tout le monde, comment évoluer, comment tendre la main et établir des relations, qui est une chose que moi je croyais pas beaucoup. On travaille et puis si une relation good, si on la passe, pas grave. Mais donc ça, surtout ça, vraiment les personnes, rencontrer les personnes. Et après rencontrer les artistes, j'avais jamais fait affaire avec des artistes. Moi, j'avais toujours fait affaire avec des gens en costume cravate. Et j'ai appris à parler aux artistes. Déjà, j'ai perdu mon costume. J'allais encore, quand j'ai commencé avec eux, j'allais en costume cravate. Et à un moment donné, ils m'ont regardé. La plupart des artistes avaient peur de moi. Ils ne me parlaient jamais, je ne comprenais pas. Ils ont dit, mais arrête avec ton costume. Là. You look like a suit. Donc, j'ai enlevé le costume. J'ai gardé la chemise, mais j'ai enlevé le costume. Et j'ai appris à parler à des créatifs qui ont un esprit totalement différent. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre encore plus sur l'entrepreneuriat. Parce que chaque artiste, si on veut, est plus ou moins un entrepreneur. Sauf que leur produit, c'est eux-mêmes. Donc, c'est d'essayer de comprendre comment un esprit créatif fonctionne, un esprit qui pense à différentes choses, qui pense à différentes solutions, et de pouvoir l'encadrer avec la partie structurelle business, qui est en gros ce que je fais aujourd'hui.
Puis, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, justement, de travailler avec des artistes?
Le plus difficile, c'est une force et une faiblesse. La chose la plus difficile, c'est les attentes parfois irréalistes que ce soit dans ce qu'ils veulent atteindre, que ce soit dans les demandes, que ce soit dans comment ils traitent les gens. Mais ça fait aussi leur force, dans le sens où, selon moi, un créatif devrait imaginer, devrait voir ce qui n'est pas là et tirer les autres pour que les autres puissent le voir au fur et à mesure. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à avancer. Mais il faut le faire avec... j'avais entendu un de tes podcasts où tu parlais de burn-out. Sans burn-out, les gens. Et ça arrive beaucoup. Parce que, comme la personne avec qui tu parlais disait, certains artistes vont forcer des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Pas des choses illégales ou rien, là, mais juste des choses... Du travail qu'ils ne veulent pas forcément faire, qui fait qu'ils vont burn-out. Mm-hmm. Ouais.
Parfait. Puis après ton parcours à Donald K. Donald, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, dans Donald K. Donald, donc on a restructuré la boîte, on avait des labels, on avait des compagnies de gérants, je crois qu'on avait une vingtaine de compagnies. Mm-hmm. On avait des compagnies de... Il avait toujours sa compagnie de production quand son non-compete a fini, parce qu'il avait vendu. Et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes assez énormes. On a fait des tournées avec les Stones, avec U2, on a fait des tournées avec Kanye West, on en a fait pas mal. Donc j'étais sur la route, ça c'était marrant quand j'étais jeune. On faisait souvent la fête, on travaillait très fort, on dormait pas beaucoup. Petit à petit, Donald a voulu commencer à prendre sa retraite. Donc on a commencé à vendre les entreprises, se dissocier de certains partnerships. Et moi, je me suis retrouvé avec une équipe que j'aimais bien, une équipe en business admin, que j'aimais bien, que je ne voulais pas forcément licencier parce qu'en fait, on avait trop de monde pour le travail qu'on faisait. Mm-hmm. Donc je les ai gardés et j'ai commencé mon entreprise, Music by Numbers, okay, avec ça. Et en gros, on offrait le même service à d'autres que Donald, que ce qu'on faisait avec Donald. C'est-à-dire... CFO for hire, la façon la plus simple de l'expliquer. Et on avait moi et après mon équipe pour faire tout le travail d'admin, compta et tout ça là.
Pour les gens qui écoutent, qui peut-être ne comprennent pas exactement, exemple, moi je suis une artiste puis je viens te voir, c'est quoi que tu peux m'offrir en fait?
À la base, en fait, moi ce que je veux dire, c'est nous on est là pour que les artistes puissent se concentrer sur la partie créative. Donc, si toi, tu es un artiste, peintre, musicien, n'importe, toi, tu vas faire ton côté créatif. Normalement, tu vas avoir un gérant ou une assistante ou quelqu'un qui va t'aider à planifier ta carrière. Mais en gros, moi, je te vois comme la CEO de ton entreprise. Flavie Inc., avec Flavie comme CEO, nous, on est la partie CFO. Donc, nous, on va s'assurer que tes deals font du sens, que tu n'es pas en train de te faire avoir sur les contrats que tu vas signer. On va s'assurer que tout le monde te paye. On va s'assurer de payer tout le monde, on va s'assurer de respecter tout ce qu'on doit faire respecter au gouvernement, TPS, TVQ, income tax. Si tu travailles à l'extérieur, il y a souvent des revenus à la source quand tu fais des performances ou quand tu es payé. On va s'assurer d'aller récupérer tout ça. Mais en gros, on s'assure que ta business roule comme elle devrait rouler et pour ça, on va se faire payer.
Cool, ouais. J'aime ça. Ouais. Puis tu trouves ça comment avoir ta propre entreprise?
C'est génial, je pourrais pas bosser pour quelqu'un.
Qu'est-ce que t'aimes le plus?
Là. On est jeudi, il est 11h, je peux venir faire un podcast et il n'y a pas de problème, et pas quelqu'un qui me crie dessus, j'ai pas besoin de punch in, punch out. Mm-hmm. C'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut et la liberté de pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime. Ça prend des années pour y arriver. Là. On a eu la chance d'avoir une sécurité financière dans l'entreprise aujourd'hui où on peut faire ce qu'on veut. Il y a des jours où si je décide de ne pas travailler, je peux ne pas travailler, qui est très difficile, ça m'arrive très rarement. Et c'est la liberté de travailler sur les projets qu'on veut travailler. Okay. La consultation, ce qui m'avait fatigué, c'est qu'à un moment donné, j'avais des dossiers dans pâte et papier, j'avais des dossiers en télécom, j'avais des dossiers en IT. Les dossiers en soi étaient intéressants parce que c'est des industries différentes à chaque fois, mais c'est les personnes qui m'énervaient. La consultation, c'est très... Il y a un truc qu'on dit, c'est « Give me your watch and I'll tell you the time ». Et la plupart des gens avec qui on travaille cherchaient juste un tampon. Ils cherchaient une tierce partie rémunérée, mm-hmm, pour leur répéter ce qu'eux, ils voulaient dire au board. Okay. Ou à leur président, ou à fill in the blank. Mm-hmm. Qui fait que l'intérêt de faire ça au début, c'est on apprend. Mais à un moment donné, ça commence à devenir assez répétitif. Et l'intérêt disparaît et les gens ne sont pas intéressants. Travailler tout seul, on arrive à travailler avec plein de différentes personnes, certaines personnalités difficiles, certaines moins, mais on apprend tous les jours. Mm-hmm. Je vais arrêter de travailler le jour où je vais arrêter d'apprendre.
Puis justement, tu as des employés, tu trouves ça comment de voir gérer des employés?
Quand c'est ton entreprise, t'as le choix de faire ce que tu veux. Okay. Donc, mon HR skills, mes HR skills sont assez mauvaises ou minimes.
Okay.
Mais j'essaye de respecter tout le monde. En fait, c'est toi qui imposes ta culture et c'est toi qui essaye d'avoir les gens autour de toi qui te ressemblent. Idéalement, tu essaies d'avoir des gens qui sont plus smart que toi, mm-hmm. Qui est mon cas. Je suis la personne la plus bête de mon équipe, qui est parfait. Okay. Comme ça, j'apprends tout le temps. Mais gérer des employés, en fait, ça dépend comment tu les vois. Moi, je nous vois plus comme une équipe. Et la plupart de mes employés sont avec moi depuis plus de 5 ans. Une de mes employées qui est associée carrément, qui est avec moi depuis pratiquement 15 ans. Donc, je les vois comme une famille. Mm-hmm. Moi, j'ai des gens où j'ai assisté à leur cérémonie de devenir résident permanent canadien, que j'ai adoré. Pas résident permanent, mais oui, résident permanent canadien, que j'ai adoré. J'ai des gens que j'ai vus single faire la fête et aujourd'hui, elles sont mariées, sont en train de penser à avoir des enfants. J'ai rencontré des couples qui n'avaient pas d'enfants et après avec des enfants. Donc tu fais partie de la famille. On fait Noël ensemble, on se parle plus de qu'est-ce qui se passe dans nos vies que le reste. Eux, ils me connaissent avant le feta qui buvait beaucoup trop, à aujourd'hui le papa qui ne fait pas grand-chose. Donc j'ai du mal à engager parce que je trouve que de plus en plus... à part toi, tu es une des rares personnes que je trouve qui travaille bien. Les jeunes de nos jours ont tendance à vouloir qu'on leur donne beaucoup de choses sans forcément travailler pour. Donc, engager de nouvelles personnes, j'ai beaucoup de difficultés. Mais les employés que j'ai, j'adore et je changerai pour rien au monde.
Puis justement, comment tu choisis les gens avec qui tu travailles? Comme c'est quoi un candidat parfait un peu?
Le classique. Si on cherche un poste, on met une application, un job posting. Mm-hmm. LinkedIn, Indeed, tous les trucs qui existent. Il y a beaucoup de bouche à oreille parce que notre industrie est très spécifique. Donc, on entend souvent des gens qui cherchent soit à travailler dans l'admin ou autre. Le problème avec l'industrie de la musique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour juste rentrer dedans. Okay. Donc, ils vont accepter n'importe quelle position juste pour rentrer dedans. Et après, ils vont faire autre chose. Il y a beaucoup d'artistes non confirmés et d'artistes qui ont une carrière qui veulent toujours... avoir, mais qui essaie de rentrer dans les bureaux pour pouvoir poursuivre leur carrière d'artiste. Et c'est hallucinant parce que des fois où tu t'engages un comptable et il va t'arriver avec un CD de musique, il va le sortir 6 mois après, il va te dire « Ah, en fait, j'avais pensé à ça, je voulais sortir mon disque cette année, j'ai beaucoup travaillé sur la musique, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec les gens avec qui on travaille, leur envoyer de la musique pour faire la production ?» Je dis, non, ça marche pas comme ça. Hein. Si t'es artiste, sois artiste. Si tu veux bosser, on bosse. Donc c'est ça, entrevue, on rencontre les gens. D'habitude, je ne fais pas la première entrevue. Moi, j'arrive à la troisième entrevue. Arriver là, c'est un vibe. C'est con, là, je ne pensais jamais pouvoir dire ça, mais tu le sens tout de suite si ça va aller ou pas. Mm-hmm. On se trompe assez rarement. Et il y a des fois qu'on est surpris. Et des fois, on prend quelqu'un, on pense que ça va marcher. La personne a une bonne attitude et après, il y a quelques petits trucs qui ne marchent pas. Et nous, on est assez secs. Oui. Si ça marche pas rapidement, sinon ça sert à rien. On traîne un boulet pendant longtemps. Et après, c'est comme dans un couple. Hein. Les deux veulent pas être ensemble, mais personne peut casser. Donc nous, on coupe si ça marche pas. Mais si ça marche, on garde. On a jamais. J'ai rarement viré des gens une fois qu'ils sont restés. Et après, on s'adapte. Si c'est l'augmentation de salaire, si on peut le faire, on va le faire. Si on doit faire autre chose, on va le faire. On s'adapte. L'argent, pour moi, c'est la chose la plus facile à trouver. Les gens sont très difficiles à trouver. Okay. Les bonnes personnes.
Puis justement, je me demande, comment tu fais pour trouver tes clients, les artistes? Est-ce que c'est eux qui entendent parler de toi?
Bouche à oreille.
Ouais.
J'ai jamais mis de 1 dollar en marketing. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux à part pour prendre des photos de ma fille. On n'a pas de photos de moi, comme tu as pu voir. Je suis difficile à trouver.
Oui.
Bouche à oreille. C'est vraiment un artiste qui parle à un autre artiste. Ce qu'on fait est très particulier, très spécifique. Comme on gère les affaires d'artistes, quand il y en a un qui trouve quelqu'un qui le fait bien sans les voler, sans mentir et en étant transparent, ça va assez vite. Donc chaque année, je passe plus de temps depuis peut-être 5 ans à dire non que oui. Donc chaque année, il y a des gens qui viennent. J'ai entendu parler de toi avec telle personne, est-ce que tu pourrais? Il y a des cas où les dossiers sont assez difficiles. Ils arrivent avec, ça fait 5 ans que j'ai rien fait, je crois que je dois l'impôt. Ça va si tu gagnes rien, mais quand tu as gagné, je sais pas moi, 100, 200, 300 000 par année, fait que tu as 1,5 à émettre et à aller payer des impôts là-dessus, là, ça commence à être assez difficile. Donc oui, bouche à oreille. Et partout dans le monde, mes clients sont... J'ai une cliente norvégienne, j'ai des clients britanniques, j'ai des clients américains, j'ai des clients canadiens, j'ai des clients africains. Donc partout dans le monde, bouche à oreille avec l'Internet. J'ai réussi à... mon équipe m'a convaincu à monter un site web. Donc j'ai un site web avec les infos de base dessus. Et on a info at avec les infos de base dessus. Et de temps en temps, on reçoit des emails de là.
Ouais. Puis tu as combien de clients?
Waouh. Peut-être une trentaine, 30 à 35. Ils ne sont pas tous actifs en même temps. Je dirais qu'il y a peut-être la moitié, 12 à 15 qui sont on-cycle en même temps. Et les autres sont en période de créatif. Et on-cycle, ça veut dire qu'ils ont un produit qui sort, que ce soit un disque, un single, un film, des livres. Donc, ouais, environ ça.
Et comment tu fais pour justement t'occuper de tout le monde en même temps, leur donner autant d'importance?
Je dors pas beaucoup.
Okay.
Je me réveille environ vers 4h30 à 5h. J'essaie de commencer par courir, qui m'aide à me relaxer. Mais en fait, j'essaie d'établir des routines. Et moi, j'essaie de contacter tous mes clients au moins une fois par mois, c'est sûr. Ceux qui sont actifs, une fois par semaine. Et j'essaie d'alterner comme ça. Et je suis assez accessible sur mes emails. Moi, c'est plus email. Je déteste les textos. Je déteste WhatsApp. Si on me texte, je réponds pas. donc, par email, la plupart du temps, ils arrivent tous à m'avoir.
Mm-hmm.
Et quand il y a vraiment quelque chose, on parle. Mais j'essaie de rester en contact, même si c'est des appels de 15-20 minutes, comme quand je suis rentré là. C'est juste, j'essaie de parler. Ma fille avait décrit à un moment donné, quand elle était venue au bureau, quand elle avait 6 ans, à sa mère, elle a dit « Mais papa, il passe tout son temps au téléphone. Il parle à ses amis. » Donc, en gros, c'est ça que je fais. Cool. Je parle à mes amis au téléphone.
Puis, tu as mentionné qu'avant, tu avais comme plus un lifestyle un peu comme fête et tout. Comment tu as fait le switch? Puis, pourquoi tu as fait le switch?
Avant, je faisais vraiment la fête. En fait, je suis arrivé au Canada. Le premier soir, je devais rencontrer mes parents le lendemain matin. J'ai oversleep parce que le premier soir, je suis sorti. Okay. Je n'avais pas bu, mais je suis sorti. Et ça m'a introduit au Canada. Université, je sortais assez souvent, mais en fait, dans la musique, c'est quand on a commencé à faire des fêtes, aller à des conférences, traîner avec des artistes et ainsi de suite. Il y a des fois où je faisais la fête jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est simplement, à un moment donné, c'était plus sustainable. On vieillit, on rentre en couple, on a des enfants, moi j'ai une. Et à un moment donné, on regarde l'enfant, on se dit bah, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être là quand elle va se marier? Est-ce qu'on veut être là quand elle va travailler? Est-ce qu'on veut être là pour lui donner des conseils? On commence à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer notre vie. Moi, je ne suis pas une personne de modération. J'y crois pas, moi, le un verre entre amis, c'est tout ou rien. Et après, on a la vie qui nous réveille. J'ai eu une pancréatite à un moment donné. Je ne sais pas si c'était causé par l'alcool, je ne crois pas, mais moi, je vais dire non. Les médecins me disent oui, peut-être ou peut-être pas. C'était aigu. Je suis rentré à l'hôpital. Je devais aller travailler dans le Vieux-Port le lendemain matin. Le soir, je me suis dit, bah, je vais aller à l'hôpital, je vais voir ce qu'il y a. Là. Ils vont faire une prise de sang, ils vont me dire qu'il n'y a rien. Je crois que moi, je pensais que j'avais des gaz. Je suis rentré à l'hôpital, je leur ai dit ce que j'avais. Ils ont pris une prise de sang. Ils m'ont dit que j'ai une pancréatite aiguë, il faut que tu restes au lit.
Mm.
J'ai dit, ça veut dire quoi, ça reste au lit? Pendant combien de temps? Ah, peut-être 6. 6 quoi? 6 semaines. Vous êtes malade, je ne peux pas rester ici pendant 6 semaines, ça ne va pas. Je dis, bah, il faut qu'on shut down pour voir si ton pancréas a arrêté de fonctionner. Il faut qu'on shut down pour essayer de control alt delete pour qu'il restart.
Mm-hmm.
On va te mettre sur fluide, après on va voir. Ils ont fait ça. La médecin m'a dit, honnêtement, je ne pense pas que ça va recommencer tout de suite. On va devoir attendre un peu. Peut-être qu'on va devoir t'opérer, couper des morceaux. Et j'ai dit, bah non, ça a marché. 2 jours après, tout allait bien, tout a recommencé. 5 jours après, j'étais sorti. Mais j'ai vu ma médecin, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment, je ne comprends pas, mais tu as l'air bien. J'ai fait du suivi. Ils m'ont dit, tout était bon. Et j'ai demandé, est-ce que je pouvais continuer à faire la fête? Et bon, tu fais ce que tu veux. Je te conseillerais d'y aller un peu plus mollo, peut-être 1, 2, 3. Et j'ai décidé que non. Donc, j'ai arrêté.
Complètement.
Ouais. Ça fait 5 ans que j'ai pas bu un seul verre d'alcool.
Bravo.
Et c'est... j'ai pas... Je sais pas... Des gens me disent bravo, mais je... J'ai pas le besoin et je pense pas que j'ai... Pas que j'ai pas de mérite. Mais c'est tout ou rien. C'est, okay. Si je le fais à fond, je vais le faire à fond. Mais si j'arrête, j'arrête. Totalement.
Puis avec ta mentalité de tout ou rien, comment tu fais pour balancer vie personnelle puis travail?
Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de balance. Il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui vont dire que... Il y a une personne qui disait qu'il faut s'entourer de gens qui sont balancés. Ça, je suis d'accord. Parce qu'on vit par procuration. Mais la vérité, si une personne va avoir du succès, je pense qu'il faut aller à fond. Je pense que malheureusement, les gens qui souffrent, c'est les gens autour de nous. Famille, copines, frères, sœurs, parents. Je pense aussi qu'il faut se donner une limite. Pendant une période de temps, on peut y aller à fond, et après une période de temps, on arrête. Moi, je dirais qu'à partir de mes 40 ans, je suis arrivé à la phase de « I don't give a fuck ». Excusez, si je n'ai pas le droit de...
Non, tu as
le
droit.
Et à partir de là, c'est de se prioriser. Depuis 2020. Depuis 2020, la mental health est devenue quelque chose de très important. Dans notre industrie aussi, musique ou entertainment en général, mental health est assez important. Ce que j'ai changé aujourd'hui, c'est que je fonce toujours autant quand je travaille, mais quand je ne travaille pas, je suis autant à fond dedans. Quand je ne fais rien, je ne fais rien. Je suis sur mon canapé comme un légume à regarder YouTube et peut-être surfer sur Instagram, ou je vais courir, ou je vais passer du temps avec ma famille. Donc, quand je travaille, j'essaie de le faire à fond, et quand je ne travaille pas, j'essaie de le faire à fond. Ça, c'est la seule chose qui a changé. Et j'essaie de me forcer de prendre au moins un jour, semaine, où je n'ai rien à faire. Le samedi, la période du temps, je ne fais pas grand-chose.
Cool.
Mais sinon, sinon, je travaille les autres jours. Et il n'y a pas de balancing.
Ok, no balance.
Ça, c'est du marketing, là, bullshit.
Ok, parfait. Ok, mais pour des questions un petit peu plus genre sur ton travail, comme comment tu penses que... C'est quoi les conseils que tu donnerais aux artistes, justement, pour avoir une bonne gestion de leurs finances?
Bah, déjà, respecter l'argent.
Ok.
La première chose que j'ai remarqué, c'est la plupart des gens qui ont du mal, c'est parce qu'ils pensent que leur carrière va durer pour toujours. Et ils ne regardent pas. Combien rentre, je ne sais pas. Combien sort, je ne sais pas. Combien j'ai été payé à tel endroit, je ne sais pas. Combien je paye telle personne, je ne sais pas. Respecter l'argent, une personne qui travaille dans la culture ou dans le divertissement devrait savoir si elle va quelque part, elle est payée pour quelque chose, combien elle est payée. Peut-être pas connaître les détails du contrat là, mais au moins avoir un ordre d'idée sur par gig, combien elle est payée, par semaine, combien il rentre, par mois, combien il rentre, et par année, grosso modo, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Elle devrait savoir, moi je pense que tous les artistes ou toutes les personnes en divertissement devraient signer tous leurs chèques ou envoyer tous les virements bancaires ou les e-transfers, parce que comme ça tu vas voir exactement ce que tu payes à tout le monde. Tu vas voir c'est quoi. Ou s'ils ne signent pas et ils ont un système de comptabilité ou une équipe comme nous, au moins de regarder la liste des gens à qui ils doivent d'argent. Regarder la liste des gens qui leur doivent d'argent, juste pour avoir une idée. Une personne de nos jours qui ne connaît pas à 80% ses finances, c'est à peu près une personne qui existe. C'est comme une personne qui n'existe pas sur les socials de nos jours. Ça, à part moi. Hein. C'est un recipe for disaster. Parce que c'est comme ça qu'il y a des vols. C'est comme ça que tu as des amis qui te prennent de l'argent. C'est comme ça que tu as des gens qui vont te facturer trop. C'est comme ça que tu as des choses que tu fais. Tu penses que tu as été payé 10 000, mais tu as reçu 1 000. Toi, tu as fait des prévisions basées sur le 10 000, mais en fait, tu as 1 000 dans le compte et maintenant, tu es dans la merde parce que tu ne peux pas payer tes factures. C'est comme ça que tu as des surprises. Donc, si toute personne dans l'advertissement, et même toute personne dans le monde, devrait juste respecter leur argent et savoir combien rentre, combien sort. Sans devenir fou, là. Il ne faut pas devenir tellement malade et regarder à chaque virgule et là. Mais avoir une idée.
Puis je me demandais, tu sais, l'industrie, ça change tellement. Il y a eu les disques, après, il y a tous les streams et tout. Comment les gens ils font pour divertir, pour avoir le plus d'argent possible, justement? Est-ce que c'est...
Ben, moi, je pense que dans le divertissement, il ne faut jamais courir après l'argent.
Okay.
Je pense qu'en tant que créatif, on devrait focusser sur la partie créative. Après, le talent va parler par lui-même. La seule chose qui a changé en musique, c'est pas forcément l'argent, c'est juste les différents moyens d'en faire. Avant, et en fait, c'est parce que c'est comme l'industrie a changé. Avant, c'était les maisons de disques qui gagnaient la majorité de l'argent. Donc, eux, ils voulaient vendre soit des vinyles, soit des disques. Sur un disque, tu recevais 10, tu payais 1 $ à l'artiste. Et après, sur les 9, t'en payais peut-être 4 pour ton marketing, t'en gardais 4.
Mm-hmm.
Non, t'en gardais 5. Pouf, mes maths. aujourd'hui, un artiste peut faire de l'argent en streaming qui, honnêtement, les DSPs et tout ce qui est streaming, ça devrait être comme les réseaux sociaux. C'est ta carte d'affaires. C'est la raison pour laquelle les gens vont te connaître. Après, tu vas faire de l'argent sur autre chose. Si tu arrives à monter tes réseaux sociaux, qui sont ton système de marketing ou ton brand identity, tu vends soit à des brands pour faire des corpos, soit tu fais des partnerships, soit tu te fais booker sur des shows si les gens t'écoutent et tu as une masse critique qui veulent te voir. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a changé, c'est les différentes façons de faire de l'argent et les différentes façons de penser à se mettre de l'avant. Et un artiste aujourd'hui peut rarement juste faire une chose. Tu peux rarement juste chanter ou rarement juste danser ou rarement juste peindre. Il faut que tu fasses plusieurs choses. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Quand tu deviens, et ce que j'essaie de faire avec les gens avec qui on travaille, c'est créer une structure où eux, c'est les CEO et on a une business qui diversifie, qui a plusieurs façons de faire l'argent et surtout de faire l'argent quand ils sont off-cycle. Okay. Quand ils sont à la maison en train de faire, de construire ou de créer ou il faut qu'il y ait l'argent qui rentre continuellement. Et ça, ça se crée au départ. Donc, on recherche différentes façons. On fait des partnerships avec des gens. On essaie de penser à différentes façons d'aller générer des revenus. C'est tout.
C'est quoi, exemple, ces façons? Est-ce que tu as des exemples?
Le classique, ce serait placement média, que ce soit dans les pubs ou dans les films. Mais sinon, comme je disais, les brand partnerships. Les brand partnerships, intéressant. Des trucs avec soit des compagnies de vêtements de sport où ils vont te payer un montant d'argent pour faire le partnership pour que tu sois en image sur leur réseau, qui te donne accès à un autre, une autre liste de followers. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une fois que tu fais ça, tu places ta musique dans la pub. Donc les gens vont apprendre à connaître ta musique. Après, tu prends leur argent pour booster tes pubs à toi. Parce qu'ils veulent dépenser de l'argent anyways. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises ne vont pas dépenser en radio, ne vont pas dépenser en télé, ne vont pas dépenser en print. Ça va être en socials. Et même si tu leur proposes un plan marketing qui va être 5 000 ou 10 000, c'est rien par rapport à ce qu'ils dépensaient avant. Donc, juste trouver des façons intelligentes comme ça de bosser. Et après, faire des alliances. Travailler tout seul, tu peux juste faire... qu'est-ce qu'ils disent? You want to go far, you want to go fast, go alone, you want to go far, go with together,
ouais,
with a team,
ouais,
quelque chose comme ça. En plus, il paraît que c'est africain, et moi, en tant qu'Africain, je ne connais pas ça, mais bon. Travailler en équipe. Plus on est d'artistes ou plus on est de personnes, plus on peut trouver différentes façons de s'allier. Il y a beaucoup de collectifs qui se forment en musique, il y a des collectifs qui se forment en art, des choses comme ça. Parce qu'il y a différentes personnes qui ont différents contacts. C'est juste d'aller chercher les contacts. On essaie, ce que tu essaies de créer... en tant qu'artiste, c'est un Spider's Web. Où toi, tu es au centre et tu as plein de filets un peu partout. Là. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va attraper. Quand tu sens le web bouger un tout petit peu, tu te diriges vers là, tu dis ah, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Tu regardes, tu développes, tu reviens. Mais à la base, ça part de ce que tu fais, la partie créative.
Puis est-ce que tu penses qu'en ce moment, en 2024, quelqu'un qui commence, un artiste au Québec, c'est possible de gagner sa vie? Ou...
Oui.
Ouais.
Je pense que c'est possible de gagner sa vie. Je pense que c'est pas facile de gagner sa vie, que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où là. Mais je pense que la différence aujourd'hui et avant, c'est avant tu faisais beaucoup d'argent assez rapidement, même pas rapidement. Tu faisais beaucoup d'argent si tu avais une carrière. Maintenant, tu en fais beaucoup moins si tu focuses juste sur la musique. Mais tu peux quand même en faire si tu fais autre chose. Mais c'est sûr que c'est pas facile. La barrière d'entrée est minime. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Un ordinateur, un micro? C'est tout, plus ou moins. Là. Et tu peux tout faire. Tu peux écrire, tu peux créer, tu peux produire et tu peux même livrer et le faire écouter par des gens. Avant, tu avais besoin de studio, comme ici dans tes bureaux, Studio Victor en haut. Tu avais besoin d'une structure pour faire ton marketing. Tu avais besoin d'une distribution pour entrer en magasin. Tu avais besoin de tout un système pour t'aider. Aujourd'hui, tu peux juste sortir ta musique, te créer une masse critique et les gens vont soit aimer, soit pas aimer. Donc, je pense que c'est possible. Et aussi au Québec, nous, on a la chance et au Canada en général d'avoir des subventions. Moi, je bosse avec beaucoup d'artistes qui n'ont pas une scène de subvention. La mentalité change. Moi, je trouve que mes artistes américains ou britanniques ou européens, ils ont plus de mentalité de hustlers qu'on a ici. Parce que, et je ne dis pas que c'est plus facile là-bas qu'ici ou que les gens ici bossent moins, mais c'est juste qu'ici, on peut aller chercher de l'argent, soit de Factor, Music Action ou Star Maker ou des choses comme ça, ou la SEDEC, qui sont des choses qui n'existent pas. Les besoins sont les mêmes, mais ils n'existent pas dans d'autres endroits. Donc oui, la réponse courte à ta question, c'est que oui, un artiste au Québec qui commence aujourd'hui, quelle que soit la musique qu'elle fasse, peut réussir, mais ça va être dur. Et il faut keep going.
Okay.
Il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop vite, dès que ça devient difficile. Mais ouais.
Puis je me demandais, c'est quoi tes 3 plus belles réalisations avec ton entreprise?
3 plus belles réalisations avec mon entreprise.
Ouais.
Déjà, rester en vie.
Ok.
Une des choses que. Une des personnes que tu avais vu en entrevue et sûrement t'as entendu à l'école, c'est une entreprise sur 10 réussie. Au bout de quoi, 10 ans, quelque chose comme ça, là. Nous, ça fait 20 ans que l'entreprise existe. Ça fait 15 ans qu'on est en affaires full-time là-dessus, là. On n'arrête pas de grossir. On grossit peut-être 5-10%. Par année. On est passé à travers la COVID. J'ai réussi à une des réalisations. Un, c'est envie et de réussir à avoir une équipe aujourd'hui dont la vie dépend de ce qu'on arrive à gagner par rapport à leur salaire. Mmh. D'avoir des familles qui vivent très bien par rapport à ce qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est un. Deux, pendant la COVID, il y a beaucoup des artistes avec qui je travaille qui avaient du mal parce que tout était fermé. On a réussi à soit pas charger du tout, soit donner des escomptes de 50%, soit même aider à financer les gens pendant une période qui est difficile pour tout le monde. Ça, c'est deux. Trois. Que je sente qu'on est en train d'aider les gens et que je dirais que 99% de mes clients ne sont jamais partis. La plupart de mes clients, je les ai depuis qu'on a commencé ensemble ou qu'ils ont commencé en musique. Et de voir des gens avec qui on a commencé. J'ai un groupe avec qui j'ai commencé il y a 20 ans qui s'appelle Stars. Et on a commencé, on était tous jeunes, bêtes, faire plein de bêtises. Et aujourd'hui, on est tous vieux, avec une famille et des hypothèques à payer. Et tout le monde arrive quand même de vivre de son art. Mm-hmm. De voir des gens qui vivent de leur art, pas seulement en musique, que ce soit en peinture ou des compagnies de vidéo. D'arriver au stade, d'avoir une... de créer quelque chose qui arrive à te faire vivre purement d'idées qui sortent de ta tête. Ça, c'est assez impressionnant. Ouais.
Ça serait quoi ton plus grand échec? Si t'en as un.
Oh, j'en ai plein, j'ai plein d'échecs. Je fais des échecs tout le temps. Plus grands échecs... Je sais pas, j'essaie de rester positif. Donc j'arrive pas à en trouver un, je suis sûr que je vais en trouver un. Je fais des erreurs.
Ça peut être des petites erreurs, sinon.
Le grand échec, c'est aussi pas, ça fait partie de pas échec, mais c'est partie de ma réussite, c'est de trop donner de chance et de trop financer. Une des choses que je fais qui rend fou mes employés, c'est je ne force pas mes clients à me payer aussi rapidement qu'ils devraient.
Ok.
Fait que j'ai un compte à recevoir assez énorme. Fait que j'arrive à un stade où je finance beaucoup de gens et il y a des fois où tu prends un risque et la personne ne pourra jamais te payer. Et tu dois write off. Et ça, c'est une erreur pure et dure. C'est une erreur d'affaires de base. Là. Respecter l'argent que je disais au début. C'est cette partie-là. Ouais, je crois que c'est tout. En termes de... Je suis sûr que j'ai fait des bêtises. J'ai viré des gens que je n'aurais pas dû virer. Mais là, sur le coup, non.
OK. Quelqu'un qui sort de l'université et qui veut faire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton plus grand conseil pour la personne?
Don't do it.
Ah, don't do it?
Non.
Ouais.
C'est trop de boulot.
Okay.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je dirais d'aller bosser pour une grosse entreprise, les Event Call, les labels, des compagnies de gérance qui existent ici, pour apprendre à travailler aussi, pour apprendre l'industrie, pour voir c'est quoi les différentes parties de l'industrie qui sont intéressantes et les différentes parties qui vont être importantes pour sa carrière plus tard. Et après, de se créer une expertise. Un des problèmes dans notre métier, surtout en musique, on est considéré comme des comptables. Et la plupart des gens avec qui je suis en compétition, pas les bons, mais les mauvais, là, leur seule habilité, c'est qu'ils savent compter.
Okay.
Mais il y a des choses que tu vois dans l'industrie qui sont hallucinantes. Des gens qui ont des postes et qui gèrent des fonds, qui gèrent des artistes qui sont énormes, qui ne devraient pas être là, juste parce qu'ils n'ont pas appris les bases. Donc moi, je pense qu'il faut aller se faire un minimum d'apprentissage, genre de 2 à 3 ans, là, de travailler pour d'autres qui savent comment le faire, d'être en internship. Et de, je sais que c'est difficile à dire, surtout avec l'inflation, mais de ne pas courir après l'argent. Une des choses que j'ai remarqué, c'est les jeunes qui sortent d'université, ils veulent gagner 50, 60, 70 000, 80, 100 000, travailler 4 jours, avoir un jour mental health, avoir des vacances, 4 semaines de vacances. Avec une attitude comme ça, surtout dans notre métier, c'est impossible. Non, surtout quand tu travailles au début et quand tu n'as pas les responsabilités de soit une hypothèque, soit un enfant, soit une famille ou autre, tu as le temps de travailler. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je travaillais, je sortais le soir, je rentrais à 5 heures, je me douchais et j'allais au travail. Et je pouvais faire ça mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Okay. Mais je travaillais comme un malade. Parce que c'était la seule façon d'apprendre. Donc je pense qu'une personne qui sort, surtout à Montréal, on a la chance d'avoir tellement une industrie du divertissement tellement développée ici, mais partout au Canada. Après, si quelqu'un veut vraiment travailler pour un artiste en particulier ou une compagnie en particulier, réseaux sociaux. Tout le monde est accessible.
Okay.
Absolument tout le monde est accessible. Donc voilà. Ne pas avoir peur de travailler, c'est simplement ça que je dirais.
Puis toi maintenant, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton entreprise?
Des nouveaux projets. Ce que j'aime, c'est de commencer avec des artistes qui n'ont rien, de monter un projet de rien.
Okay.
Eux, ils arrivent avec la partie créative, on écoute. Moi, j'ai aucune oreille, ou je ne peux pas te dire si ça, ça va marcher ou ça, ça va pas marcher. Je fais basé sur l'attitude de l'artiste. Je dis toujours à mes clients que je ne peux pas travailler plus fort qu'eux. Parce que moi, j'en ai 15, 30 des clients. Eux, ils ont une carrière. Si je ne les vois pas, eux, pousser, moi, je ne vais pas pousser derrière. Je vais être là, mais je vais aller aussi vite qu'eux, ils vont être. Mmh. Donc, de voir quelqu'un pousser, monter, créer son truc, arriver avec des idées, après de monter une équipe autour, d'aller chercher les personnes de marketing, d'aller chercher une distribution, d'aller chercher une équipe de tournée et tout ça, vraiment monter de tout, de A à Z, ça, c'est génial. On parlait d'une artiste avec qui je travaille, qui est Caraba. DJ Caraba, on a commencé ensemble il y a, je crois, 3 ans ou 2 ans. Et elle venait d'arrêter de danser sur les grosses tournées. Elle commençait à être DJ. On a commencé à placer sa musique. Elle commençait à apprendre à créer de la musique. Je l'ai placée avec un des artistes avec qui je travaillais, Steven Ramsey de Young Galaxy. Et après elle, je lui ai donné le challenge. Je lui ai dit, tu vas me faire une chanson par semaine. Et on a commencé à monter comme ça. On écoutait, il faut travailler. Qui fait que 3 ans après, la semaine dernière, on était au Junos et c'était la DJ de Junos. Qui est quand même pas mal pour une personne, elle est toute jeune, là, elle a 3 ans de carrière en musique, ça c'est des choses qui n'arrivent pas. Et en plus, elle était nominée. Une de ses chansons était nominée pour Underground Dance Record of the Year, qui n'arrive pas quand, aussi vite que ça. Mm-hmm. Y en a une autre, Goldie, qui est extraordinaire, qui, pareil, on a commencé il y a 2 ans, parce qu'une amie à elle lui a dit, appelle ce gars-là, si t'as besoin d'aide, il va t'aider à nettoyer au moins tes contrats. Et ça fait 2 ans qu'on bâtit son truc, et on est passé de, je crois que, une de ses chansons, Cowboy Gangsta, on a 10 millions de streams. Et on a commencé, on avait 3000. Hein. Donc, c'est que des choses comme ça. Des choses comme ça sont extraordinaires. De monter avec des projets qui, à la base, commencent avec rien et tu crées toute pièce.
Puis c'est quoi les 5 artistes qui t'ont le plus marqué dans toute ta carrière?
Plus marqué? Ouais. Avec qui j'ai travaillé ou pas?
Ouais, avec qui t'as travaillé.
Plus marqué. Bah, les Rolling Stones, ça c'est sûr. J'ai eu la chance de tourner avec eux plusieurs fois grâce à Donald. Ce qui m'a marqué chez eux, c'est qu'ils travaillent comme des malades. Moi, je me rappelle, on était à Regina et j'arrivais genre à 7h du matin. Je devais être sorti la veille et j'arrivais au stade et il y avait Mick Jagger qui faisait des tours de piste, qui courait pour se tenir en forme. 7h du matin, il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. Caraba, parce que sa ténacité et comment elle travaille, comment elle n'a jamais abandonné, c'est tellement facile pour elle si elle voulait juste danser et continuer à danser en tournée. Elle gagne très bien sa vie, elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle est partie sans savoir, elle savait juste qu'elle aimait la musique, elle aimait jouer de la musique pour les gens, donc elle voulait être DJ. Et de là, à créer ses propres morceaux, à sortir un EP, et maintenant elle tourne partout dans le monde de sa musique et elle vit de sa musique. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je travaille avec un artiste qui s'appelle Blood Orange, Dev Hines. Pareil, c'est un Britannique. J'aime dire que c'est le musicien favori de ton musicien favori. La plupart des gens ne le connaissent pas vraiment, mais les musiciens qu'eux ils aiment les connaissent. Et lui, je l'ai vu quand on a commencé. connue, mais sans plus, à... aujourd'hui, on refuse des festivals à des montants absolument ridicules. Ils travaillent avec plein de gens impressionnants. Et il fait ce qu'il aime. Là, par exemple, ça fait 2 ans qu'il aime faire de la musique classique. Ça fait 2 ans qu'on a arrêté de faire ce qu'on faisait, okay. Qu'il gagne de l'argent, il fait de la musique classique. Mais cet été, en avril, il va à Vienne. Cet été, il va faire Sydney. Après ça, on va faire Toronto. Et pour un artiste noir, jeune, son but à lui, c'est d'attirer tous les non-typical classical fans dans des endroits comme ça. Okay. Et il arrive à le faire et c'est impressionnant. 5, là, c'en est 3.
Ça n'est pas obligé d'être 5, là. Juste, qu'est-ce qui te vient à la tête?
Avec qui je travaille, ce serait... Il y en a plein d'autres, là, mais... non, je crois qu'on va s'arrêter là.
OK. Ouais. Puis est-ce que tu voudrais nous dire, sans nommer personne, mais c'est quoi les demandes les plus, comme, folles que les artistes ont demandé? Parce que je sais qu'il y en a.
Les demandes folles... Nous, on fait des demandes folles juste pour rigoler.
Ah, OK.
Ouais, ouais, avec des artistes, parfois, on va faire des demandes folles. Mais j'ai eu les cas des M&M, il faut changer, il faut juste avoir une couleur.
Ça, j'ai jamais cru que c'était vrai.
Non, c'est vrai. Oh, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
T'as dû trier les M&M.
Moi non, mais j'ai quelqu'un plus jeune que moi l'a fait, oui.
OK.
J'ai eu des alcools, surtout, des alcools que je connaissais pas. Le hip-hop, ils sont assez extraordinaires dans leur alcool absolument ridiculement cher.
Mm-hmm.
Ou les champagnes, les cristals de champagne, à l'époque où le cristal coûtait 650 par bouteille. Et ils sprayent sur la scène. Ils le boivent même pas. J'ai eu... ou sinon, ils le mettent dans leur valise. Okay. Ils repartent avec. J'ai eu des capotes. Ça, c'était très drôle.
OK.
Ouais, ça, c'était bizarre. Température. La température de la pièce, okay, devait être à une certaine température. Et une personne venait avec un thermomètre ultra précis pour mesurer la température, qui est absolument ridicule. C'était 18,5, même pas un chiffron, rien. Okay. Température de l'eau. De l'eau, température pièce et de l'eau froide à zéro, ou presque freezing, mais pas freezing. Et encore une fois, il mesurait. On avait fait les Stones à Ottawa. Et ils aiment Schwartz. Et on avait oublié d'en prendre. Et à Ottawa, il n'y a pas. On a fait voler un truc de Schwartz avec un siège. Moi, je l'ai amené, mis dans une boîte, siège. Et quelqu'un l'a pris en arrivant. On a refait ça, on avait oublié. J'ai dû conduire jusqu'à Toronto.
Non.
Non, on a eu plein. Mais la plupart du temps, honnêtement, c'est des choses que les artistes vont mettre pour voir si... Le promoteur de l'autre côté cares.
Mm-hmm.
Et aussi pour rigoler.
Ok.
C'est pas. Et c'est des portes de sortie si jamais il y a quelque chose qui arrive mal. Donc c'est des choses faciles que tu peux utiliser. Ouais, mais tu peux pas donner ça, je vais pas performer.
Ok.
Ça arrive rarement qu'une personne performe pas pour ça, mais c'est. Tu vois le niveau auquel la personne avec qui tu vas travailler, on a quelque chose à faire de ce que tu vas faire et tu vas matcher son énergie. Donc, si une personne se donne et te donne tout ce que tu veux, toi, sur scène, tu vas te donner. Et c'est pour ça qu'en étant des deux côtés, de temps en temps, on travaille avec des festivals. Moi, j'essaie de dire, on va essayer de faire le plus possible parce que ça, on va le recevoir tenfold sur la scène.
Mm-hmm.
Et les gens vont en parler. Il y a des gens qui vont parler du fait. Donald, une des choses que lui, on a toujours dit, c'est il livre. Tout ce que tu demandes backstage, là, tu veux toujours avoir. Qu'est-ce que ça a fait? C'est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, les gens l'appellent. Même si ça fait 10 ans qu'ils ne travaillent pas. Hein. On l'appelle pour, en fait, on a une tournée, est-ce que tu voudrais... Donc, ouais.
Cool. Puis quand tu fais les festivals, justement, tu fais quoi exactement?
Je travaille pour Flavie, en fait. J'aide. La plupart, on a commencé, en fait, parce qu'on avait des contacts. Mm-hmm. Donald avait des contacts avec tout le monde, un peu partout dans le monde, parce que c'était un gros acheteur de shows. Ce qui fait qu'on avait contact avec les grosses agences. Donc, les festivals ont commencé à nous appeler pour voir est-ce qu'on pouvait les aider à programmer ou booker.
Mm-hmm.
La plupart du temps, un festival va arriver avec sa programmation et nous demander si ça a du sens et est-ce qu'on peut aller contacter telle personne. Plus on travaille avec le festival, plus on va commencer à faire la programmation ensemble. En faisant un peu d'éducation sur les prix, parce que tout le monde s'attend que pense que Justin Bieber va coûter 100 000 et va venir faire ton after party chez toi. Donc il y a un peu d'éducation à faire là-dedans, il y a un peu de market research à faire pour voir qu'est-ce que les autres festivals font. Et après on bâtit tranquillement, on bâtit une programmation, on bâtit une relation et on essaie de rester avec les mêmes gens pendant quelques temps. Bien sûr après t'as la compétition là. Quel que soit le marché, t'as d'autres gros promoteurs qui sont là, qui essaient de venir approcher les festivals avec qui on travaille dès qu'on a commencé à avoir du succès pour dire ah nous on peut vous aider aussi. Okay. Mais ils étaient pas là au début. Il y en a qu'on perd, il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on garde, on continue. C'est la partie que j'aime le plus parce que c'est drôle. Okay. Et j'aime bien travailler avec les gens avec qui je travaille. Un de mes festivals favoris, bien sûr, c'est le festival de Montgolfière de Saint-Jean. Ça fait longtemps qu'on est là. On adore, on a commencé avec Louise, maintenant on travaille avec Junior. Et avec d'autres personnes qu'on aime beaucoup. Et non, donc voilà.
Puis je me demande comment on fait justement pour booker l'artiste, comment ça fonctionne.
À la base, on connaît les gens. À la base, on va connaître les agents. Et déjà, on va connaître les boîtes.
Okay.
Et dans les boîtes, on va avoir une bonne réputation. Donc, c'est assez simple. Les boîtes en musique, il y a tellement d'escrocs dans notre industrie et tellement de gens qui ne sont pas fiables que tu n'as pas un rating, mais tu as un internal... Il y a un système de vérification à l'interne où si tu appelles de compagnie XYZ, ils vont soit te prendre au sérieux et te parler, soit te flusher et te demander un prix tellement ridicule et te demander un dépôt que si tu payes, ils vont être obligés de le faire. Donc, à la base, c'est la réputation que tu t'es faite.
Okay.
Après ça, c'est on trouve l'artiste qu'on veut. On fait la recherche, on écoute, on regarde. Moi, je pose beaucoup de questions à ma consultante principale, qui est ma fille de 12 ans. Il va me dire qu'est-ce qui est cool en ce moment, parce que j'ai appris que j'étais plus cool.
Okay.
Après 40 ans, on devient plus cool. Une fois qu'on a trouvé l'artiste, on trouve l'agent et on l'appelle. Et si on a la chance, on a une relation avec... Si ça ne marche pas avec celui-là, il va t'en proposer d'autres. Il va t'en proposer d'autres qui sont en tournée. Tu regardes aussi qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en général. Qui a sorti un album? Qui a sorti un single? C'est beaucoup plus facile de booker un artiste qui est en processus de on-cycle, comme je disais tout à l'heure, avec soit un album sorti, soit un single, parce qu'il est en tournée. Donc, il est déjà sur la route. S'il arrive à passer par Montréal, ou passer par Toronto, ou passer par Ottawa, tu peux le booker. Donc, c'est ça que tu essaies de faire. Tu essaies de voir ton hit list, ton A-list. C'est quoi les autres options? Ton B-list. Et après, c'est qui est en tournée? Qui est en train de bouger en ce moment? Qu'on peut aller chercher peut-être à moindre prix par rapport à ce qu'on devrait payer si c'était un one-off. Un one-off, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour ton festival et puis qu'ils rentrent.
OK. Donc, puis ça coûte combien? Tout le monde est différent, mais comme un headliner, c'est combien à peu près?
Ça dépend du festival, ça dépend de la salle. Ça varie beaucoup.
Okay.
Honnêtement, les gros pop... quand c'est privé, c'est beaucoup plus cher. Il n'y a rien là qui a été payé 9 millions pour son mariage. Mais non, ça dépend vraiment. Ouais, ça dépend des artistes.
OK. Fait que pour finir le podcast, c'est des questions un peu plus straight to the point. Alors...
Rapid fire.
Exactement.
Let's go.
Ça serait quoi un de tes plus grands fails que tu as fait? Mais genre pas un gros échec, mais comme quelque chose que...
Pas en musique.
OK.
Moi, c'était en consultation. Je me rappelle le dossier. C'était un dossier médical pour une compagnie qui s'appelle AMS. J'espère qu'ils m'ont oublié. On avait fait tout le plan, le business plan. Tout était fait. C'était imprimé, le plan de les projections financières et tout et tout. Et j'ai réalisé que j'ai fait une erreur sur la projection de 80 millions.
Oh.
J'ai surévalué parce qu'il y avait un zéro de trop dans un chiffre. De 80 millions.
Okay.
Tout était imprimé, on était à 15 minutes de la présentation et je ne savais pas comment le dire à la personne qui allait le présenter. Donc j'ai enlevé la slide des chiffres et quand la personne arrivait à présenter, il n'y avait plus la slide des chiffres, mais elle a continué. Elle a répondu à des questions et après à la fin, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé et je lui ai dit la vérité, je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. 80 millions sur, je crois que les chiffres totaux, je crois que c'était 5 millions, j'avais 87 et quelques.
Ok.
C'était terrible.
Plus gros fail.
Ouais, c'était un beau, beau fail. Ouais.
Ça serait quoi ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé avec ta compagnie?
Mon plus grand rêve que je n'ai pas réalisé avec ma compagnie encore, de créer un fonds pour. Pas deserving artists, mais. Et pas une subvention. Mais un fonds pour les gens qui n'auraient pas accès vraiment à tout ce qui est subvention, tout ce qui est... où il leur manque quelque chose.
Okay.
Au lieu de le financer par mes comptes à recevoir, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans les projets directement.
OK.
Ouais.
Parfait. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu as des questions que tu veux te renseigner? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des films? Est-ce que c'est des podcasts? Où tu trouves tes infos?
Si c'est des trucs sur la vie sentimentale, c'est des livres.
OK.
Si c'est des trucs en affaires, c'est... je lis beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est biographie. Là, je suis en train de lire Prime Time, Elevate okay. and Dominate.
OK.
Donc, je lis beaucoup de biographies. Mais sinon, je vais parler. Je vais parler à des gens. Tout le monde est assez accessible. Je parle beaucoup à Donald, toujours. Je parle beaucoup à mes pères. Je suis arrivé à un stade de ma vie où on a tous commencé au même niveau avec la plupart des gens avec qui je travaille. Et on est tous arrivés à un niveau assez, pas supérieur, mais un bon niveau, où je peux poser des questions à des gens qui sont passés à travers des choses et des gens qui peuvent vraiment m'aider. Ce qui est cool, surtout quand je parlais tout à l'heure de ce qui m'allume, c'est de commencer des projets, de les monter. Mais je suis arrivé au stade où tous les gens autour de moi peuvent m'aider. Ils peuvent vraiment m'aider. On n'est pas tous en train de s'arracher à essayer d'avancer. Là, on a des gens qui peuvent faire un appel et ça va changer la vie de l'artiste. donc, des trucs comme ça, ça, c'est cool. Mais donc, pour répondre à ta question, recherche, livre, en ordre, c'est livre, recherche et mentorat.
OK.
Je suis un bélier, donc je n'aime pas parler aux gens. Donc, je vais commencer par lire. Si ça, ça ne marche pas, je vais faire la recherche. Ça, ça ne marche pas. Là, je vais poser des questions.
Ça serait quoi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut en tant qu'entrepreneur?
Qualité, je n'ai pas peur. No is not an answer. Et je ne vais pas faire. Plus on va me dire non que quelque chose ne peut pas être fait, plus je vais vouloir le faire et prouver qu'on peut le faire. Donc, je n'ai pas peur et je suis optimiste. Je crois en l'avenir. Je ne suis pas une personne de négatif ou qui pense que ce qu'on va essayer ne va pas marcher. Défaut, je suis un tout petit peu trop agressif parfois.
Non.
Un tout petit peu, pas beaucoup. Et aussi, parfois, ce n'est pas une bonne chose de ne pas écouter les gens quand ils disent que quelque chose ne va pas marcher ou de ne pas faire quelque chose. De temps en temps, c'est pour ton propre bien que les gens essayent de te... ou de me prévenir, mais j'écoute pas, voilà, c'est de pas écouter.
Puis, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui écoutent le podcast, qui disent qu'ils ont comme le symptôme de l'imposteur, qui ont pas
toujours,
confiance en
jours,
eux. Comment tu bosses?
Comment ils disent? Prime Time, il dit « Don't let my confidence insult your insecurities. » Donc, je pars du principe « Fake it till you make it ». Ça, c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat en général, là.
Mm-hmm.
Parce que veut pas, on est tous pareils. Une des choses que mon premier CEO m'a dit là, quand j'étais consultant, Howard Silverman, il me disait, tu vas être le plus jeune dans la salle. La plupart des gens vont te voir comme un lackey qui fait juste type et machin, là, même si tu es au même niveau que tout le monde. Tu vas avoir peur et tu vas vouloir bégayer quand tu auras des présentations. Mais pars du principe que, sans vouloir être cru, tout le monde chie pareil. Tout le monde pisse pareil, tout le monde a des problèmes, on est tous pareils.
Mm-hmm.
T'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Et c'est bien d'avoir le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire qu'on en a quelque chose à faire. Ça veut dire que c'est important. La consultation, j'ai arrêté quand I didn't care anymore. La musique, ça va être pareil.
Okay.
Le jour où ça va plus m'allumer, je serai plus intéressé des appels que je reçois à 3h du matin pour des problèmes absolument stupides, là je vais arrêter.
Ça va faire quoi?
Je sais pas. Ah. Cette idée de retraite, là, j'y crois pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais bosser à la CEPAC.
Ah.
J'ai découvert la CEPAC. J'ai découvert la CEPAC et les parcs canadiens, là.
Okay.
J'adore ça. Hein? Ouais. Random thoughts.
OK. Cool. Parfait. Puis, dernière question, ça serait quoi ton... Attends, non, en fait, j'en ai deux. Première question. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris avec ton parcours à date?
Keep going. De toujours, toujours continuer. La vie est dure, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des failures de 80 millions, tu vas avoir des succès, mais qui boit, tu te lèves le matin, que tu le veuilles ou pas, peut-être tu le lèves un peu plus tard. Ce qui a changé entre ma vingtaine, trentaine et quarantaine, là, c'est avant je me levais quoi qu'il arrive, ou je dormais pas. Après, je me levais plus tôt pour travailler plus. Maintenant, si j'ai envie de dormir un peu plus, je dors un peu plus, mais je me lève quand même. Just keep going.
Parfait. Puis dernière question, c'est quoi le plus grand conseil pour quelqu'un qui veut commencer, quelqu'un qui est jeune puis il veut commencer?
Commencer quoi?
N'importe quoi, son projet, à travailler.
Commence. Okay. Do it. C'est vraiment aussi con que ça, là, c'est just do it. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps à préparer des plans d'affaires, aller consulter des gens, demander des conseils à des parents ou à des amis ou à leur contact qui est un entrepreneur extraordinaire, qui a réussi, qui est millionnaire. Tout le monde va dire ce qu'ils savent. La plupart des gens are making it up as they go. Donc, juste commence. Il y a des fois où ça va marcher. Peut-être qu'on va commencer, que la personne va commencer quelque chose qui là, elle est super intéressante, super importante, et qu'elle va réaliser que c'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Juste commence. Ne pas avoir peur. Et oui, il y a 90% de chances que la personne va foirer. Et c'est pas grave. Tu te relèves, tu continues.
Super.
Et t'arrives à faire autre chose.
Bon, ben merci, c'était trop intéressant. Merci pour le podcast.
Je savais pas que j'étais intéressant.
Ben oui,
j'avais très peur d'être là. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire un podcast.
Mais non, c'est trop bien. Puis c'est où que les gens peuvent retrouver, pas toi, mais ta compagnie, c'est où
nulle part, on n'existe pas.
Oko!
Je crois que j'ai un Instagram, @okoshio, je crois. Site web, c'est www.musicbynumbers.com. Si vous êtes en divertissement ou besoin d'aide dans tout ce qui est conseil et tout ça, là, vous allez me trouver.
Ok.
Ça fait partie du test, en fait.
Ok.
Si quelqu'un veut vraiment me trouver, il va me trouver.
Ok, parfait. Ouais. Puis pour le podcast, comme d'habitude, generationstartup.podcast sur Instagram, sinon generationstartup. Alors sur ce, à la semaine prochaine!
Bye!